Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette séance qui sera consacrée aux cop movies au féminin au tournant des années 1990 et plus particulièrement à un exemple emblématique qui est donc le film Blue Steel de Catherine Bigelow qui date de 1989 et dont le premier rôle est interprété comme vous le voyez dans la première slide de ce PowerPoint, par Jamie Lee Curtis, donc, qui revient finalement après son rôle emblématique dans Halloween, dans un nouveau genre traditionnellement masculin, cette fois-ci le film policier criminel, et sous les apparences, on va le voir, d'une final girl. Adapté, on va dire, à ce genre. En tout cas, il y a des caractéristiques communes hein, entre la Final Girl du film d'horreur et celle que vous allez voir à l'écran sous les traits d'une femme flic, donc d'une policière qui, notamment, hein, ne se sépare presque jamais dans ce film de son arme de prédilection, donc un Colt Smith & Wesson que nous allons aussi analyser. Puisqu'il joue un rôle important dans cette séquence. Vous le voyez dans cette illustration de couverture, ce film la met aux prises avec un serial killer, Eugène, avec qui elle va, dont elle va tomber amoureuse, alors sans savoir au départ que c'est un serial killer, qui en plus de cela est obsédé par son image et qui va signer ses crimes. Du nom de la jeune femme, en inscrivant, en gravant son nom dans les balles de revolver qu'il utilise pour tuer ses victimes. Bon, tout un programme, vous allez découvrir ça avec les extraits, mais en tout cas, j'ai choisi aussi cette image parce que elle illustrait le dispositif de ce film, qui est assez complexe, hein, on va le voir, qui met en parallèle hein, les deux personnages, ou plutôt qui établit une équivalence entre le désir de toute puissance du serial killer, mais aussi de l'héroïne. Donc, on va regarder comment ça se présente, mais un film qui est vraiment passionnant à analyser et qui a suscité un certain nombre de commentaires hein, de la part de la critique féministe. Donc ça m'a semblé évidemment un choix tout indiqué pour cette séance. Slide numéro 2, avant d'en arriver à ce film et aux extraits que je vais analyser avec vous, je vous propose une rapide contextualisation donc de ces représentations. Et je vais m'appuyer assez largement pour cela sur l'ouvrage de Noël Birch, De la beauté des latrines, pour réhabiliter le sens au cinéma et ailleurs, qui est un recueil hein, de différents articles, dont un des articles, Une poétique de l'inavouable, revient précisément sur les ambivalences de certains films, comme Blue Steel, mais aussi Thelma et Louise. Fatal Attraction ou Basic Instinct, donc qui apparaissent hein, au tournant des années 1990 et qui témoignent d'une intégration, hein, d'une forme de féminisme populaire dans les représentations, en particulier les représentations de femmes d'action ou de femmes violentes dans le cinéma hollywoodien mainstream. Donc, un des intérêts de cet article, au-delà des analyses très fines, hein, souvent, qu'il propose de ces films, et de permettre de comprendre comment émergent ces nouvelles figures, pour quelles raisons, à quel moment, dans quelles conditions. Et Birch revient pour cela hein, sur l'abolition de la censure à la fin des années 60. Si ce n'est qu'avec cette abolition de la censure hein, que la violence physique des femmes va prendre place dans certains genres policiers et d'action, nous dit-il. Aux côtés des représentations traditionnelles de la violence masculine, de films comme la saga des Dirty Harry avec Clint Eastwood, sur laquelle je vais d'ailleurs revenir tout à l'heure. Cette évolution, nous dit-il, le fait que des femmes personnages principaux dans le cinéma américain deviennent finalement physiquement violente, peu à peu, de manière plus affirmée, à partir de la fin des années 60, du début des années 70. C'est surdéterminé par différents facteurs, le succès à l'époque des films d'arts martiaux venus d'Asie, où certains personnages féminins pouvaient faire preuve de violence physique, la prégnance des idées féministes dans les couches moyennes libérales, c'est-à-dire que les idées féministes se développent aux États-Unis et en particulier hein, dans les couches moyennes et supérieures de la population, dont les professionnels de l'industrie du cinéma sont généralement issus. Et on va le voir dans quelques instants, hein, une cinéaste comme Catherine Bigelow hein, s'inscrit dans cette mouvance et entreprend notamment avec Blue Steel ou d'autres de ses films d'insérer des idées féministes dans ses films, dans le cinéma d'action mainstream. C'est dans la série B, tout d'abord, des années 50, hein, que la violence des femmes devient une affaire sérieuse, à partir d'un film donc, intitulé « Faster Pussycat Kill Kill », réalisé par Russ Meyer, qui est considéré hein, comme un des grands réalisateurs de ce qu'on a appelé la « sexploitation », donc une forme de cinéma d'exploitation, qui se caractérise hein, par des séquences ouvertement érotiques représentant des corps féminins dénudés. Des films qui ne sont pas pour autant dénués, on va dire, d'intérêt hein, pour nous, en particulier parce que justement ils vont mettre en scène des femmes violentes de manière extrêmement intéressante. Donc je vous conseille hein, pour cela de regarder la conférence de Michel Bondurant, Gros bras et mascara, féminité et identité au prisme de l'action. J'ai déjà évoqué cette conférence au sujet de Barbarella, mais je vous la recommande également à ce sujet, d'autant qu'elle porte vraiment sur les femmes d'action, donc elle est tout à fait susceptible de vous fournir des repères, des pistes de réflexion pour la séance d'aujourd'hui et plus largement sur les représentations de genre dans le cinéma d'action et d'aventure américain. Alors, ces films de sexploitation, nous dit Noël Birch, ils flattent toujours et souvent très explicitement la fascination américaine pour les héroïnes violentes, mélange de crainte et de désir très américain. Mais ils s'adressent aussi à un public populaire féminin, car ces films prennent acte de la plus grande facilité qu'ont culturellement les États-Uniennes de toutes les classes à assumer une position de sujet violent par rapport, on va dire, aux femmes européennes. En tout cas, c'est son interprétation, et je précise que Noël Birch hein, est de nationalité américaine et voilà une connaissance hein, importante de la société américaine, de la culture américaine, qui informe toujours ses analyses. Au début des années 1970, au moment où le mouvement féministe atteint sa vitesse de croisière avec un impact massif et durable sur de plus en plus de femmes des couches moyennes et au-delà, des cinéastes féministes vont avoir l'occasion de tourner des films d'exploitation idéologiquement marqués. Toute une série en particulier de Rape and Revenge Movies, slide 3, qui raconte, hein, si vous n'êtes pas familier ou familière de ce genre, bon, vous pouvez en deviner la teneur à partir de son titre, qui raconte en général hein, comment une ou plusieurs femmes qui ont été violées ou subi des agressions sexuelles, devant la carence de l'autorité masculine, se vengent personnellement et souvent très violemment de leurs violeurs, et souvent également des agresseurs d'autres femmes de leur ville ou de leur quartier. Un exemple de ce type de film, hein, dans ses aspects les plus progressistes, puisque Birch soutient que certains de ses films peuvent avoir une dimension progressiste, et par exemple donc, The Ladies Club de Janet Crick en 1986, et vous avez un certain nombre d'autres productions bon, qui témoignent hein, dans ce contexte de la manière dont le cinéma d'exploitation hein, va refléter ou cibler les aspirations de tel ou tel groupe social. Donc, c'est vrai aussi à l'époque pour la Blood Exploitation. Et selon Birch, hein, le Rape and Revenge peut se comprendre selon cette logique qui s'adresse à la fois ici aux hommes et en même temps à une frange du public féminin en proposant des représentations qui sont susceptibles de faire écho à certaines problématiques, dont évidemment ici celle de la violence contre les femmes. Alors évidemment, le genre en lui-même est globalement très ambigu, hein, puisque d'une part, il peut parfois proposer des représentations assez complaisantes de la violence faite aux femmes, et deuxièmement, il insère ensuite des performances violentes féminines qui vont être proposées en réaction à la violence masculine, selon un schéma qui ne remet pas forcément en cause toujours la domination masculine, ne serait-ce que parce que il propose finalement aux femmes de répliquer de la même manière que dans les formes où s'exerce la domination masculine. Bref, je ne m'étends pas sur les complexités et les intérêts de ce cycle de films. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'ils ont pour caractéristique hein, de donner le dernier mot aux femmes, exactement comme le slasher film hein, dont on a vu un exemple avec Halloween, et dans la lignée hein, de ces productions, à partir de la fin des années 70, les femmes violentes vont apparaître de plus en plus fréquemment dans les policiers de séries bis, dans les téléfilms, on va voir apparaître aussi bien des méchantes que des femmes flics. Ce qui va se produire ensuite, c'est un mouvement qui va du bis vers le mainstream, donc à la fin des années 80 et ensuite dans les années 90. Les femmes fortes, les femmes violentes, apparues dans l'univers du cinéma d'exploitation, vont peu à peu intégrer le mainstream, hein, où les produits, évidemment, sont plus rigidement codés que dans le cinéma alternatif. Alors, vous avez slide 3 et 4, deux exemples de Rape and Revenge. I Spit on Your Grave est un des films les plus emblématiques, si ce n'est le plus emblématique de cette tradition. Comme vous l'a dit l'affiche, cette femme a juste été coupée, découpée, cassée, brûlée par plusieurs hommes au-delà de toute reconnaissance de son corps, de son visage, mais aucun jury en Amérique ne devrait la condamner, et c'est donc un acte de revanche hein, que nous propose le film. Ça aussi, c'est un dispositif qui va s'installer à la revanche. Birch nous explique que c'est quelque chose qui est très inséré dans la culture américaine, la culture de la revanche, et ce fait-là, ça va sans doute contribuer hein, à faciliter le fait que des histoires qui vont commencer à mettre des femmes violentes au premier plan vont s'inscrire dans cette culture de la revanche aux racines anciennes, et c'est vrai que c'est un motif que l'on retrouvera ensuite, bien au-delà du « rape and revenge » strictement dit, dans des films comme « Kill Bill » de Quentin Tarantino, ou Thelma et Louise, bien sûr, de Ridley Scott. Le motif de la revanche permettra finalement et conditionnera en partie l'émancipation des femmes qui nous seront proposées par la mise en scène. Slide numéro 4, je vous ai mis un autre exemple de Rape and Revenge, mais cette fois-ci, de l'autre côté du versant idéologique, un exemple de film ici, de réappropriation masculine, hein, du Rape and Revenge, de réappropriation masculiniste plus précisément, du côté de Abel Ferrara, L'Ange de la Vengeance, est en effet un film qui, s'il peut sembler, on va dire, critiquer la domination, la violence masculine, tend surtout à lui opposer une violence supplémentaire, hein, qui serait celle des femmes. De manière assez complaisante, vous voyez ici sur l'affiche, aucun mâle ne sera épargné, avec ce plan particulièrement érotisée. Et le film, en fait, hein, va fétichiser complètement la violence de la protagoniste féminine, qui, en fait, va déchaîner son ultra-violence contre tous les hommes qu'elle rencontre, même ceux qui... a priori ne sont coupables d'aucune violence, au point hein, de la représenter davantage comme une femme perverse que comme une femme qui se vengerait légitimement pour les souffrances qu'elle a subies. Donc il y a une forme de fétichisation dans l'ultra-violence dont elle témoigne, et dans la manière dont elle est mise en scène, hein, par exemple dans ce costume grotesque de nonne, et cet ultra-maquillage dans les séquences finales, qui fait que voilà, tous les films de Rape and Revenge ne sont pas, on va dire, aussi progressistes ou aussi critiques de la domination masculine. Ici, c'est plutôt un film qui exprime une certaine anxiété vis-à-vis de la violence féminine, tout en s'inscrivant voilà, dans ce registre assez complaisant, qui par ailleurs hein, rejoint ici le male gaze de Laura Mulvey. Donc, on voit très bien comment la figure de la femme violente, hein, très vite, elle peut faire l'objet d'une forme de fétichisation, et ce sera justement l'objet de Blue Steel que d'interroger cela, d'en avoir conscience, d'en exprimer une conscience et de proposer une réflexion. Hein, c'est vraiment un film, vous allez voir, qui va réfléchir en même temps qu'il propose un spectacle, un divertissement. Avec ce personnage de femme flic, donc ça en fait vraiment l'intérêt. Slide numéro 5 du cinéma d'exploitation mainstream. Effectivement, hein, c'est au moment en fait, où paraît ce film, L'Ange de la Vengeance, donc on est en 1981, que les héroïnes violentes commencent à paraître dans le cinéma grand public, même si, nous dit Birch, elles vont rester assez longtemps tout de même confinées dans les blockbusters de science-fiction, donc le prototype en est Alien. Et ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'on commencera à confier des films d'action à des réalisatrices ou des scénaristes féminines et souvent aussi féministes. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la violence féminine en soi parviendra à mobiliser les critiques et le public de manière plus large, donc sans être confiné dans l'espace du cinéma d'exploitation. Thelma et Louise ici est un exemple emblématique, donc je ne m'étends pas, puisque c'est un film qui reprend donc le dispositif du road movie et qui sort un petit peu de notre cadre ici concernant le film policier criminel en particulier. Mais ce film, ça vous est montré sur la slide numéro 6 à travers la couverture de Time, a fait l'objet de nombreux débats, beaucoup de discussions médiatiques à sa sortie et ensuite. Et ça, c'est assez révélateur hein, du fait que la place des femmes dans le cinéma grand public, dans le cinéma d'action, la place de femmes fortes ou violentes, est vraiment devenue un sujet d'intérêt, un sujet qui pouvait faire l'objet de couvertures de magazines, comme vous pouvez le voir. On a placé les femmes au premier plan, non seulement dans les films, mais à l'époque aussi dans les discussions médiatiques. Et cela participe hein, vraiment de l'affirmation d'une nouvelle génération de femmes, qu'elles soient interprètes, vedettes, scénaristes ou réalisatrices, qui vont acquérir plus de pouvoir à Hollywood, avoir plus de marge de manœuvre pour s'exprimer, bon, toute proportion gardée. Ce n'est pas une révolution... on va dire, complète, et il demeure beaucoup d'inégalités hein, dans cette période. Les années 1980 et début des années 90 bon, correspondent, vous le savez, aux années Reagan, donc des années plutôt conservatrices et des années de remasculinisation aussi hein, de la société américaine. Donc tout ne se résout pas, évidemment, dans cette période du tournant des années 90, mais il y a un changement qui est amorcé au niveau des représentations comme des discours et de la considération, de l'attention qui est portée à ce phénomène, donc des femmes qui arrivent au premier plan en tant que personnages, scénaristes, actrices ou réalisatrices, et Catherine Bigelow est tout à fait emblématique de ce mouvement sur le plan générationnel et sur le plan culturel. C'est une... femme donc, qui a été formée dans une école de cinéma, qui a été remarquée pour ses premiers films, précisément parce que éprouvait comme cela le désir d'aller explorer des territoires génériques qui étaient traditionnellement considérés comme masculins. Et le film Blue Steel en particulier va contribuer à la propulser en avant, film dans lequel on retrouve donc Jamie Lee Curtis, qui elle-même a atteint une position importante dans le Star System et qui va beaucoup contribuer au succès de ce film quelques années après donc avoir percé grâce à sa performance dans Halloween. Et comme je vous l'ai dit, on va retrouver entre les deux films un motif qui est celui de la Final Girl, qui va beaucoup inspirer en fait hein, le cinéma hollywoodien. Comme le dit Raphaël Moine, en fait, la Final Girl, plus largement le slasher ou le Rape and Revenge, ils vont fournir des types de personnages féminins et des modèles narratifs à partir desquels le cinéma hollywoodien mainstream va construire ultérieurement ses femmes d'action. Donc, c'est tout à fait le cas dans Blue Steel. On peut dire que Jamie Lee Curtis renoue avec la Final Girl en tant, vous allez le voir ici, que jeune recrue de la police new-yorkaise qui tombe amoureuse d'un serial killer dont elle a elle-même déclenché la pathologie en faisant une intervention musclée dans une épicerie où il y avait un braquage, hein, et en tuant l'agresseur, comme vous allez le voir dans quelques instants. Avant d'en arriver à cette séquence qui sert un peu de matrice au film, de scène primitive, Jamie Lee Curtis abat ce voleur sous les yeux donc, du serial killer, dont nous ne connaissons pas encore l'identité, à ce moment c'est juste un client de l'épicerie. Avant d'en arriver là, et pour mieux comprendre donc, le dispositif assez complexe de ce film, qui va poser une équivalence entre fascination de toute puissance du serial killer et de la femme flic, je vous propose de regarder le premier extrait, en sachant que celui-ci se découpe en plusieurs parties, donc soyez-y attentifs et attentives à la manière dont est construit l'extrait. Vous allez voir qu'on commence sans préambule par une séquence qui nous immerge dans l'action, une séquence d'action, où Jamie Lee Curtis nous est placé donc en position, semble-t-il, de sauver une jeune femme d'un risque mortel dès les premières secondes du film. Ensuite, nous allons avoir le générique qui a suscité beaucoup de commentaires pour justement la manière dont il thématise la question du voyeurisme, de l'aspect fétichiste lié à la femme violente et à son usage des armes. Ensuite, vous allez voir le personnage de Jamie Lee Curtis justement s'habiller pour la remise de diplôme qui ouvre le film. Plusieurs plans vont vous détailler la manière dont elle met ses habits, dont elle s'habille, dont elle se prépare, dont elle revêt les atouts de l'ordre et de la loi et de la justice. Une scène qui en elle-même est très intéressante à analyser dans la séquence, et ça se poursuit par la fameuse remise de diplôme où Jamie Lee Curtis se fait prendre en photo avec plusieurs membres de son entourage, et nous découvrons ensuite, elle prend un certain plaisir, vous le verrez, à arborer ses nouveaux habits, même si on suspecte que cela crée une tension dans sa famille, et plus précisément par rapport à son père, qui verra d'un mauvais œil le fait qu'elle soit devenue une femme flic, justement. Voilà. Donc, je vous ai présenté ces différentes scènes à l'intérieur de la première séquence, que je vous propose maintenant de regarder, et je m'arrêterai ensuite sur chacune de ces scènes pour les commenter, puisque, comme je vous le disais, l'extrait est très riche et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'en profite pour vous signaler que pour cette séance, je vous ai proposé comme ressource, en complément du cours, hein, de regarder donc un document qui contient des extraits deux analyses du film, assez courtes, l'une de Pam Cook et l'autre de Noël Birch. Donc je vous invite à en prendre connaissance, d'autant que je vais y faire abondamment référence lors des analyses, et donc dès la première analyse du premier extrait que je vous invite à regarder avant de rebrancher le fichier audio. Je vous prie simplement de m'excuser pour la très mauvaise qualité de la vidéo que j'ai dû copier avec les moyens du bord via Zoom en partageant mon écran, donc ça explique que la vidéo lag un petit peu et soit de mauvaise qualité. Voilà, désolé. Alors, concernant la première scène, donc celle où Jamie Lee Curtis nous est montrée en pleine action, évidemment, donc, ce qui est intéressant, c'est que nous entendons une femme appeler au secours, nous entendons également un agresseur masculin, et avant même de voir cet homme et cette femme, et de voir Jamie Lee Curtis intervenir, bon, et prendre ce qui s'avérera être une mauvaise décision, ou en tout cas, avant qu'elle réalise que la jeune femme elle-même n'est pas si innocente qu'elle y paraît et est susceptible de l'abattre une fois que l'homme est à terre. Avant cela, donc, ce qu'on nous propose, justement, à travers les extraits sonores, la femme qui appelle à l'aide, l'agresseur masculin qui menace de lui tirer une balle dans la tête, ce qui nous est proposé, c'est un... le type de répartition genrée que l'on a traditionnellement dans les récits hollywoodiens, particulièrement d'ailleurs dans le film policier criminel. Et ce n'est que en fin d'extrait, lorsque la scène se termine avant de laisser place au générique, qu'on réalise que cette vision était faussée et que la répartition genrée que l'on avait spontanément pensée comme acquise, l'homme violent et la femme passive, victime, étaient erronés. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, premièrement, ici, le film interroge la conception genrée de la violence telle que peut l'avoir l'héroïne, et elle-même va se rendre compte que elle ne peut pas se fier à une répartition des choses qui est traditionnelle ou à la répartition des choses qui a l'air traditionnellement ancrée dans sa propre tête, puisqu'elle a fait spontanément confiance à son instinct ici, qui était que l'homme était l'agresseur et la femme forcément la victime à secourir, sans penser qu'elle-même pouvait lui tirer dessus ensuite. Et en même temps, ce qu'on interroge, c'est notre perception à nous, public, de cette dichotomie genrée ou de ce stéréotype, puisque nous-mêmes, nous avons entendu l'homme se montrer menaçant, la femme se montrer suppliante, et nous-mêmes, finalement, spontanément, a priori, nous avons cru à cette image, à ce récit, qui en fait s'est avéré faux. Ce qui signifie que le film nous invite aussi à nous interroger sur nos propres préconceptions, sur voilà, l'association entre femme et victime, l'association entre homme et violence, que nous pourrions nous-mêmes avoir tendance à mobiliser spontanément sans y réfléchir, et le film précisément nous invite à y réfléchir. Par ailleurs, ce qui intéresse dans cette séquence, et ça se poursuit ensuite avec le générique, c'est bien sûr l'usage de l'arme par la femme flic. Vous avez vu qu'elle le tient avec beaucoup d'assurance. Elle n'hésite pas ici à s'en servir. On ressent dès le début tout est fait pour construire un climat particulièrement anxiogène. On sent que sa vie en dépend. Et de fait, comme le dit Pam Cook, la clé de sa vie, je cite, c'est son revolver, qui est toutefois une arme à double tranchant, qui lui donne pouvoir et autorité d'un côté, même si transparaît aussitôt la question de la vulnérabilité féminine. Que devient en effet le personnage féminin sans son revolver, ou dès qu'elle se met à l'utiliser de manière non avisée, non performante, elle se retrouve en danger, hein, comme cela est illustré dans l'extrait, et dans plusieurs autres séquences du film, elle commettra des erreurs ou se retrouvera en mauvaise posture dès lors qu'elle sera séparée de son arme, donc toujours à double tranchant dans le film. Ce revolver, par ailleurs, tend à la construire en femme fétiche. Et cette problématique est amenée ensuite dans le générique, où, nous dit encore Pom Cooke, la beauté mythique et érotique du revolver est mise en relief dans la séquence sensuelle du générique, qui culmine sur le canon d'un Smith & Wesson offerte au regard du public. Ce générique, hein, effectivement, on possède une dimension sensuelle et symbolique assez marquée avec la forme phallique, hein, du revolver. Pour Raphaël Moine, cela souligne dès le générique, hein, le mélange de fascination et de peur que suscite la violence féminine par ces plans qui semblent caresser, hein, le Smith et Wesson et qui s'attarderont ensuite sur la femme mettant son uniforme. De l'autre côté, pour Noël Birch, ce séduisant générique, il fétichise l'arme et l'uniforme de la femme phallique, hein, selon son expression, donc la femme en position de tenir le phallus, comme on peut lire dans certaines analyses d'obédience féministe française, donc c'est une expression qu'on peut employer, à vous de décider si elle vous paraît judicieuse. Bon, en tout cas, c'est ici son expression. Et ce qui évidemment problématise la chose, c'est que quelque part, ce générique met en fait le public à la place du serial killer qui, dans quelques instants, vous allez le voir, hein, sera témoin de la violence féminine lors de l'intervention de la policière dans ce fameux braquage. Et en fait, c'est cela qui captera l'attention du tueur, qui ensuite va entreprendre de fétichiser Jamie Lee Curtis et va se montrer complètement obsessionnel par rapport à cette image qui aura marqué son esprit. Donc, évidemment, on ne le sait pas encore au moment où on regarde le générique, mais on adopte ici, quelque part, un point de vue qui est celui, hein, du serial killer qui fétichise la femme flic. Donc, on en revient toujours à l'idée ici que le film interroge aussi notre propre perception, et aussi un autre niveau de complexité, et que du coup, il met en adéquation, en parallèle en tout cas, le fantasme de puissance du serial killer avec le fantasme de puissance de la femme flic qui eh bien, est la première, hein, à porter une attention toute particulière, une fascination toute particulière envers les armes, envers également le costume qu'elle met ensuite dans la suite de l'extrait. Vous avez vu que elle prend grand soin de s'habiller, qu'elle semble particulièrement fière de porter l'uniforme, et ensuite ça nous est démontré aussi dans la petite séance photo qu'elle se prête, ou quand elle revient chez elle et qu'elle est satisfaite de voir que les gens la remarquent dans la rue parce qu'elle porte l'uniforme, parce qu'elle est une femme de pouvoir. Et cela nous dit très très bien, je trouve, Noël Birch dans son texte que je vous propose de lire. Cela montre bien que le film propose une interrogation, je cite, sur l'éventualité que les femmes partagent avec les hommes un même clivage sado-masochiste, c'est-à-dire un fantasme, hein, de régression masochiste, le fantasme d'être placé comme cela dans une position de pouvoir qui peut rappeler, selon une lecture psychanalytique, la position de toute puissance paternelle par rapport aux jeunes enfants, hein, qui souhaitent se l'approprier. Vous n'êtes pas obligé, hein, d'adhérer complètement à la lecture psychanalytique, mais c'est vrai qu'elle informe certaines des analyses, hein, dont on a pu proposer à propos de Blue Steel, en particulier chez Noël Birch. mais Pam Cooke également en partie. Et ce qui donne, moi je trouve, de l'intérêt à ces lectures pour ce film, c'est que Catherine Bigelow était elle-même dans une mouvance propre au féminisme de l'époque, qui est précisément un féminisme où les théories de Mulvey ou d'autres vont grandement influencer les représentations cinématographiques. Donc on peut tout à fait imaginer que Catherine Bigelow elle-même était familière de ces théories. Si vous lisez Mulvey, elle accorde une grande importance à cette lecture psychanalytique. Et quand on voit l'importance ensuite que Catherine Bigelow donne au revolver, à ses dimensions phalliques, etc., c'est vrai que c'est assez, a priori, judicieux de considérer qu'il y a une clé de lecture ici pour interpréter le film, en décoder les significations d'un point de vue genré. La suite de la séquence met en relation de manière assez intéressante l'image de l'ordre, l'apparence de la policière, avec l'esprit de corps dont elle va manifester les différents traits à l'occasion de ce défilé. Donc une fois qu'elle est intégrée effectivement à l'ensemble des forces de l'ordre, donc en quoi une image de représentante de la loi s'intègre dans un esprit de corps, un ensemble de traditions, une institution, celle de la force, de la justice, du pouvoir militarisé. Tout cela est finalement posé aussi comme question par le film à travers ce montage, qui témoigne aussi d'une conscience justement de cette proposition de représentation au travers de ce dispositif de la photo entre Jamie Lee Curtis et son entourage, donc comme si le film mettait vraiment cela entre guillemets, attirait votre attention sur le fait que le film va porter sur cet enjeu, qu'il y a une conscience de le représenter, et des dialogues aussi qu'on peut analyser, en particulier lorsque l'amie de Jamie Lee Curtis lui dit qu'elle est extrêmement fière d'elle parce qu'elle se trouve on the right side of the law, du bon côté de la loi, ce qui signale bien entendu que Jamie Lee Curtis transgresse les frontières de justement de la loi et de la justice, les frontières traditionnelles qui placeraient normalement un personnage masculin dans cette position. Donc c'est la même chose avec tout le dialogue sur Act as a cop, fait semblant d'être un flic, fait la flic pour la photo. Et ensuite, vous allez voir que sur le trottoir, c'est un peu ce que fait Jamie Lee Curtis. Elle joue la flic parce qu'elle est extrêmement fière d'arborer cet uniforme, fière aussi, évidemment, d'avoir eu son diplôme et de faire ses débuts en tant que policière sur le terrain. Mais il y a cette dimension, finalement, qui interroge la répartition genrée traditionnelle du fantasme de pouvoir. Est-ce que c'est vraiment uniquement un fantasme masculin ? Et le film, je trouve, a l'intelligence de proposer une réponse plus complexe que cela à la question. Vous avez vu ensuite les franches réticences du père du personnage de Jamie Lee Curtis quand elle revient dans le domicile familial à l'idée que sa fille soit devenue une femme policière. Et on comprend à travers cette séquence, et ce sera approfondi dans la suite du film, comme le dit Pam Cooke, que ce sont des motivations oedipiennes finalement de Meghan, qui la pousse à contester l'autorité masculine, à rejeter son destin de victime, et peut-être aussi qu'ils l'ont poussée à devenir policière. Donc on va regarder cela dans la suite du film. Avant ça, nous pouvons nous arrêter donc au deuxième extrait. Je me rends compte que sur la slide, sur le PowerPoint, je n'ai pas commenter la slide numéro 10 montrant Dirty Harry et son 44 Magnum, donc qui est effectivement l'arme fétiche de Clint Eastwood, et que l'on retrouve dans ce film. Donc c'est un symbole culturel finalement que le film utilise aussi, mais justement pour interroger le fait que d'une part il serait spécifiquement destiné aux hommes, et surtout que le fantasme de violence qui lui est associé pourrait également être partagé par une femme. En tout cas, c'est la configuration qui est proposée et qui donne son sens à l'extrait numéro 2, slide 13, la fameuse scène primitive dont je vous ai parlé, où Megan, très rapidement, une fois sur le terrain, va être confrontée à la nécessité d'utiliser son arme, puisque alors qu'elle faisait une course avec son collègue, elle se rend compte que dans l'épicerie d'en face, quelqu'un est en train de commettre un vol à main armée, tenant en joue les clients de l'épicerie, et elle intervient, elle demande à l'agresseur de jeter son arme, celui-ci refuse d'obtempérer, elle l'abat de sang-froid en lui tirant plusieurs coups de revolver sous les yeux d'Eugène, donc qui pour l'instant n'est qu'un client de l'épicerie. On apprendra plus tard que c'est un trader qui évolue dans un milieu bon, assez obsessionnel, malsain, nous suggère le film, et par ailleurs un serial killer qui, obsédé par cette scène primitive, par cette image de la femme puissante tenant son arme, va entreprendre donc tout d'abord de voler effectivement l'arme laissée à terre par le braqueur, et ensuite de commettre des crimes en inscrivant le nom de Megan sur les balles de revolver. Dans le même temps, il va entreprendre de séduire Megan, qui va tomber amoureuse de lui. Et le film, bien évidemment, va ensuite proposer la confrontation entre les deux, et à partir du moment où Megan découvrira l'identité de son petit ami. Avant cela, extrait 3, 4 et 5, il y a différents moments dans le film où différents personnages interrogent Megan et lui demandent pourquoi elle a souhaité devenir policière. Je vous propose de regarder ces trois extraits, puis de rebrancher le fichier audio. Alors, ces trois extraits donc, expriment de différentes manières une idée similaire. On comprend que Megan est devenue flic parce que voilà, elle a ce désir depuis qu'elle est enfant, nous dit-elle. Donc ça donne un peu de crédit à la lecture d'Ipienne dont je vous ai parlé. Mais surtout, ça montre bien hein, que le film propose une configuration complexe. Certes, nous dit Noël Birch, c'est Eugène, donc le serial killer fou, qui, dans la séquence que vous allez voir ensuite, va énoncer l'idée que Megan tue sans ciller, hein, est une femme phallique qui finalement prendrait plaisir à déchaîner la violence et à être en position d'autorité. Nous avons vu dans l'extrait effectivement de la scène matricielle, hein, de l'intervention à l'épicerie, que Megan était hésitante, qu'elle était angoissée à l'idée de se servir de son arme. Le tueur, on va le voir, hein, réinterprète hein, la séquence, hein, selon un point de vue fétichiste, masculin, etc. Néanmoins, dans les trois extraits que vous venez de voir, Megan elle-même, tout de même, nous dit Noël Birch, avec certes plus d'humour, le dit aussi, en affirmant à son coéquipier noir sur le mode de la plaisanterie qu'elle est devenue flic pour pouvoir tirer sur les gens, ou en taquinant un flirt potentiel refroidi par la découverte de sa profession, avec la révélation que ce choix était dicté par une envie, je cite, de taper la tête des gens contre un mur. On peut donc voir, nous dit Birch, dans cette confrontation entre cet homme qui tue en son nom, au nom de Megan, et cette policière mal vue de sa hiérarchie pour sa violence, le combat entre Megan et sa propre face sombre. Et donc voici une autre interprétation nourri par la psychanalyse que l'on peut faire et qui semble effectivement assez productive dans ce film, de voir le serial killer comme finalement le pendant négatif masculin de ce personnage, de toutes les émotions qui la traversent en relation avec l'exercice de la loi, de l'ordre et de la violence. En ce qui concerne le dernier de ces brefs extraits, donc l'extrait numéro 5, où elle explique à son coéquipier, qui lui demande aussi pourquoi elle est devenue flic, elle dit à cause de lui, puis vous avez vu qu'elle donc lui met les menottes, hein, pour l'empêcher d'agir et pour aller elle-même se confronter au tueur, bon, mettant du même coup la vie de son partenaire en danger. Quand elle dit à cause de lui, c'est une phrase qu'on peut interpréter de différentes manières. Une première interprétation serait à cause d'Eugène, donc à cause du serial killer, ou à cause de gens comme lui, une interprétation bon, qui nécessiterait de transgresser un peu la chronologie, mais qui a sa possibilité, on va dire, dans l'état d'esprit du personnage. Et puis une autre qui ferait référence à la figure patriarcale que montre le film, la figure patriarcale traditionnelle, en l'occurrence le père de famille, qui est montré comme un père abusif, ou plutôt un mari violent à l'encontre de son épouse, dans une séquence très importante qui va suivre donc dans quelques instants, que vous allez pouvoir regarder, et qui va voilà, vous ajouter finalement une couche, hein, de réflexion telle que la propose le film sur les relations de pouvoir, y compris au sein de la famille et de la société. Je vous propose de regarder l'extrait 6, puis l'extrait 7. Vous avez pu voir deux des extraits les plus importants du film, qui vous permettent de comprendre vraiment son fonctionnement. En premier lieu, donc, cette fameuse séquence donc, où Megan sort avec un homme, voilà, qu'elle a rencontré par hasard dans la rue, qui est trader, et qui, dans cette séquence, bah, lui fait comprendre, hein, qu'elle l'a rencontré lors de ce fameux braquage, et lui fait comprendre qu'il est en fait le tueur et qu'il est fasciné par l'image qu'il a conservée, hein, d'elle avec son revolver en train de tirer, et qui place le revolver sur sa tête, préfigurant la suite du film, hein, où il va avoir de cesse de pousser Megan à faire usage de cette arme. Donc ici, cela illustre bien cette idée, hein, de Noël Birch. Eugène est à la fois un sujet masochiste à part entière, tout en incarnant la face sombre d'une femme qui, elle-même, est traversée par des pulsions violentes. Idée similaire exprimée chez Pam Cook, qui note que Blue Steel explore toute une gamme d'émotions provoquées par le culte des armes, de la soif de justice de Megan au fantasme de toute puissance d'Eugène. Megan est certes horrifiée, hein, quand elle se trouve confrontée à l'adoration d'Eugène pour son arme, à l'image qu'il se fait d'elle de femme assoiffée de pouvoir, mais, nous dit-elle, c'est seulement en reconnaissant la suprématie des armes et en se plaçant avec Eugène hors la loi qu'elle est capable de le détruire, puisque, effectivement, vous le comprenez dans la fin de la séquence, la hiérarchie, hein, de Megan ne va pas être convaincue, hein, par le récit qu'elle va proposer, et ne va pas tarder à relâcher donc, le tueur, obligeant Megan à intervenir par ses propres moyens et en dehors de tout cadre légal. Le deuxième extrait que vous avez vu ensuite nous fait comprendre que il y a des finalement la, remonte aux racines de cette violence, et nous fait comprendre que ce combat oedipien auquel Megan doit faire face, il se situe aussi dans sa propre famille. Donc Noël Birch le dit très bien ici, contre un représentant pitoyable du patriarcat traditionnel, ébranlé par le féminisme mais toujours virulent. Et vous avez vu que Megan va effectivement jusqu'à passer les menottes à son père pour protéger sa mère contre sa violence, la mère ayant tendance de son côté à disculper, hein, sans cesse celui qui la maltraite. Je cite donc Noël Birch qui souligne, hein, ici, qui insiste sur l'idée que la violence passe par la famille et qu'il s'agit assurément là d'un des propos du film. En témoigne l'articulation immédiate de la scène de l'arrestation avortée du père avec celle où, regagnant avec lui la maison parentale, elle retrouve Eugène, qui a tué sauvagement sa seule amie devant ses yeux, mais que sa classe sociale protège encore de la loi, tranquillement installé avec la mère, en membre d'une famille où il a sa place, puisque la violence y règne déjà. Donc effectivement, hein, le fait de voir Eugène tranquillement installé sur le divan, pour rajouter aussi une dimension encore un petit peu psychanalytique, de le voir installé comme s'il était chez lui, de le voir dire à Meghan qu'il n'y a pas de raison d'avoir cette discussion ailleurs, puisque ils peuvent tout se dire en présence de ses parents, et sous-entendu aussi en présence d'un contexte où la violence existe déjà depuis le plus jeune âge, pour ce qui est de Meghan, dont on devine qu'elle a grandi dans cet environnement avec un père violent. Le film, finalement, place bien cette question de la violence, du rapport au pouvoir, depuis ici le constat que la société américaine, la famille de classe moyenne, est finalement structurée sur un modèle qui favorise la reconduction de pulsions violentes au travers des années, au travers des générations. Il s'ensuit, slide 18 et suivante, extrait 8 et 9, donc un jeu du chat et de la souris, un affrontement entre Meghan et Eugène, que je ne vais pas détailler outre mesure. Je vous invite à vous référer aux deux textes que je vous ai proposés. Donc les séquences 8-9 hein, complètent un petit peu l'analyse que l'on peut faire de ce film jusqu'à son cheminement final. En particulier, donc, en ce qui concerne l'extrait numéro 8, une séquence très violente de viol d'Eugène sur Meghan, après avoir fait l'amour avec Nick Mann, son partenaire policier. Vous apprécierez le jeu de mots avec Mann, évidemment, ironique en plus, puisqu'il se rattache à un personnage donc musclé, mais grand, fort et musclé, mais aussi aux cheveux longs et qui dissimule un peigne dans sa veste. Donc, un discours ironique, là aussi, sur les attributions traditionnelles genrées dans le film policier et criminel, donc un policier qui est aussi en partie féminisé et qui d'ailleurs se retrouve impuissant lorsque Meghan l'enferme dans la voiture. Bref, c'est après avoir fait l'amour avec Nick que Meghan se retrouve agressée hein, par Eugène, et c'est à la suite de ce viol qu'elle va entamer finalement une vengeance personnelle, hein, et qu'elle va décider de prendre les armes, de subtiliser le costume donc, de policier qu'elle a enfilé au début du film. Elle assomme un gardien et elle entreprend de se faire justice elle-même, donc un petit peu sur le mode du rape and revenge, et selon cette configuration que l'on a évoquée tout à l'heure et qui est commun à tant de films postérieurs. Alors, sans commenter tous ces extraits en détail, bon, vous avez vu que on oscille hein, constamment, finalement, dans la dernière partie du film en particulier, hein, entre expression de la puissance féminine, Meghan en tant que final girl qui va finalement mettre en échec le monstre. On retrouve d'ailleurs une logique un peu similaire à celle du film d'horreur à travers le fait que Jane semble perpétuellement survivre aux blessures qui lui sont infligées. Il semble ne jamais pouvoir mourir, exactement comme Michael Myers ou Jason ou tant d'autres figures monstrueuses donc, du slasher. Et on oscille entre représentation de la puissance féminine et représentation de la vulnérabilité. Hein, donc ça, c'est tout à fait visible dans la slide 17 avec le plan notamment où Meghan se blottit contre l'épaule de Nick avant de faire l'amour avec lui. Et on retrouvera cette idée de vulnérabilité lorsque Meghan, après avoir assassiné, enfin après avoir tiré sur Eugène après s'en être finalement débarrassé, après avoir éliminé le monstre, est en état de catatonie hein, dans la voiture, incapable de bouger, et doit être porté par un policier masculin, exactement comme on porterait un enfant. Donc une fin assez intéressante de ce point de vue aussi, nous dit Pankou, dans la mesure où la victoire finale de Megan est moins un triomphe qu'une perte. Il semble qu'en tuant Eugène, c'est elle-même qu'elle a détruit. Donc je vous invite à regarder les deux extraits, puis à relire hein, les deux textes de Pam Cook et de Noël Birch pour analyser éventuellement vous-même, hein, si vous le souhaitez, ces deux extraits qui achèvent hein, de donner ces différentes significations, son ambivalence aussi à la fin de ce film, qui, voilà, j'espère, vous aura intéressé. On peut y voir une manière d'art engagé, comme Noël Birch nous y invite. Effectivement, la qualité particulière de Blue Steel étant de mettre en scène, je cite, des contradictions qui secouent une famille ouvrière blanche, qui travaille le psychisme d'une femme moderne, pulsion entre guillemets masculine, qui traverse le fantasme masochiste lui-même, du côté des hommes comme du côté des femmes. On peut aussi bien sûr voir certaines ambivalences dans cette représentation, en particulier, comme le souligne Raphaël Moine, par le fait que les images de la puissance féminine sont toujours contrebalancées par l'évocation de la vulnérabilité féminine. On peut y voir également finalement la manière dont ces représentations se complexifient à partir du moment où des cinéastes femmes s'en emparent avec une forme de conscience féministe et évidemment ensuite qui se trouve confrontée aux stéréotypes qu'elle entend critiquer ou dépasser. Et le film, je pense, y parvient à certaines reprises et puis à d'autres. Peut-être retombe-t-il dedans. Néanmoins, voilà, je trouve que il nous fait réfléchir sur notre rapport à la violence et sur l'impact que le genre, finalement, au sens gender, comme au sens genre cinématographique, peut avoir dans cette relation. Merci de votre attention. À très bientôt pour la prochaine et peut-être dernière séance ou une des dernières séances. Merci à vous.